19h15 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Voici le magazine Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Ntumba Kamanga à la présentation. Bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir Rémi Chamala, bonsoir à tous les auditeurs. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme déplore l'environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme en RDC. Sur quoi se base Mme Margaret Sekadia pour qualifier l'environnement congolais de difficile pour ces défenseurs des droits de l'homme? Comment améliorer leurs conditions de travail ainsi que leurs rapports avec les autorités congolaises? C'est le sujet du dialogue entre Congolais, cette émission à laquelle nous avons comme invité, ou dans laquelle nous avons comme invité, Upioka Kurawapol, il est ministre des droits humains du gouvernement central. Floribert Chebeya, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, une ONG de défense des droits de l'homme. Bonsoir Floribert.
Bonsoir.
Monsieur le ministre, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Voilà, le ministre est en ligne. Mais aussi Claudine Moussobécois, elle est membre de l'Association des femmes juristes congolaises APJICO. Madame, vous êtes en ligne?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme déplore l'environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme en RDC. Sur quoi se base Mme Margaret Sekadia pour qualifier l'environnement congolais de difficile pour ces défenseurs des droits de l'homme? Il faut dire que la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme a fait ce constat dans un point de presse hier mercredi. C'était à l'issue de sa visite officielle de près de 15 jours, visite qu'il a conduite notamment à Kananga et à Bukavu en RDC. L'étape de Kisangani a été annulée faute d'avions disponibles. Margaret Sekadia a rencontré les autorités nationales, dont le Premier ministre Adolphe Mouzito, les autorités provinciales, les défenseurs des droits de l'homme et les représentants de la société civile. Détail sur le constat pas heureux qu'elle fait des conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme en RDC avec notre consoeur Noéla Mouzito Kabambi.
Margaret Sekadia, dans un communiqué, reconnaît qu'après des décennies de dictature, la RDC est engagée sur la voie d'une transition politique, économique et sociale. Mais elle regrette qu'un environnement propice aux activités des défenseurs de droits de l'homme y fait toujours défaut. Selon elle, ces hommes et ces femmes sont l'objet de stigmatisation aussi bien dans la capitale que dans les provinces de la part des autorités et des acteurs non étatiques en étant considérés comme des ennemis et des opposants. Surtout lorsqu'ils soutiennent des victimes des graves violations, notamment des violences sexuelles, et lutte contre l'impunité. L'autre motif de vive préoccupation de la rapporteuse spéciale, c'est l'impunité généralisée dans les cas des violations des droits des défenseurs des droits de l'homme. Parmi les auteurs de ces violations des droits de l'homme figurent des policiers, des militaires, des agents de renseignement ainsi que des membres des groupes armés. Ainsi, pour améliorer la situation des défenseurs des droits de l'homme, Mme Sekadia a fait quelques recommandations au gouvernement et aux autorités provinciales.
Condamner publiquement les assassinats et autres graves violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs des droits de l'homme. Enquêter sur toutes les violations des droits de l'homme commises contre les défenseurs, juger dans le cadre d'un procès équitable les auteurs présumés et les condamner s'ils sont reconnus coupables. Faire de la lutte contre l'impunité pour les violations commises contre les défenseurs une priorité.
La rapporteuse spéciale recommande aussi à la MONUC et au Haut Commissariat aux droits de l'homme de renforcer les effectifs et les moyens financiers du Bureau conjoint des droits de l'homme et d'assurer la continuité du programme sur la protection des victimes, des témoins et des défenseurs des droits de l'homme.
Monsieur le ministre Upioka Kura, comment vous réagissez au constat fait par Madame Margaret Sekadia?
Oui, je voulais d'abord féliciter la rapporteure spéciale que j'ai eu à recevoir à son arrivée avant son départ pour faire le point sur la situation et également et a eu le privilège de participer à l'audience que le Premier ministre a bien voulu lui accorder. Je crois que d'abord la situation des droits de l'homme en RDC, la situation particulière des défenseurs des droits de l'homme, n'est pas aussi mauvaise, n'est-ce pas, que on peut le dire. Donc le rapport de la rapporteuse, il est un rapport équilibré. Il a fait l'objet d'une discussion avec moi-même et mes services. et qu'on a donc pris bonne note des efforts qui doivent être fournis conformément aux défis que nous avons déjà nous-mêmes relevés. Et donc là-dedans, il y a pas mal de points qui, dans ce rapport, il y a pas mal de points qui font l'objet de notre plan d'action et sur lesquels nous travaillons déjà. Et que, considérant l'environnement dans lequel nous évoluons, l'environnement de démocratisation, de construction d'un état de droit qui participe dans un long processus et mieux de la réalisation de l'idéal des droits de l'homme, on peut se dire que, qu'effectivement, le travail qu'aura fait la rapporteure spéciale, rapport auquel nous aurons à répondre, et ça il faut le souligner, c'est un premier constat, elle va devoir nous faire un rapport officiel sur lequel nous aurons à réagir en tant qu'État. Et donc, globalement, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles, n'est-ce pas, on peut insister pour améliorer notre travail et que surtout les défenseurs des droits de l'homme qui se sentiraient victimes de menaces ou de quelque intimidation que ce soit, peuvent, n'est-ce pas, compter sur le travail que fait le gouvernement et les différents mécanismes de protection pour qu'ensemble nous continuions, puissions continuer à améliorer la situation des droits de l'homme.
Alors, Florida Chebea, pardon, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, comment vous avez accueilli, vous devriez être content, n'est-ce pas, de ce rapport?
Bon, oui, le défenseur des droits humains en République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, demandait en fait à la commission des droits de l'homme des Nations Unies, devenue aujourd'hui Conseil des droits de l'homme, pour que qu'on puisse, ce mécanisme puisse en fait effectuer une visite en République démocratique du Congo. Ça remonte déjà du temps de la création de ce mécanisme important, avec la désignation de, à l'époque, au début, après l'adoption de la déclaration sur les défenseurs des droits humains en 1998 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, il a été désigné pour montrer l'importance du travail défenseur des droits humains, un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits humains. Naturellement, ça a évolué à un mécanisme, un rapporteur spécial. Donc, les signaux étaient déjà au rouge depuis plusieurs années.
Ce que je voulais dire, évidemment, au ministre, il va y revenir, parce que dans une question, répondant à une question d'un journaliste, je pense de Reuters, Mme Margaret a dit que la situation des défenseurs des droits de l'homme à RDC est grave. Vous avez la parole, hein, c'est vous qui parlez, hein, monsieur le ministre va répondre après.
Les constats, nous les partageons entièrement. Parce que de la petite expérience que nous avons de la collaboration avec le mécanisme onusien chargé des questions des droits humains, quand on décide de déplacer en tout cas un rapporteur spécial, et c'est pour dire que vraiment les conditions sont réunies pour que la situation au rouge puisse faire l'objet d'une visite, d'un rapport qui sera en fait présenté à l'instance, dans le cas précis, au Conseil des droits de l'homme et adressé naturellement au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui est en fait chargé, le premier responsable chargé de réalisation des droits humains et qui en fait est indexé dans le martyr ou la victimisation des défenseurs des droits humains. Et malheureusement, cela en violation de ses engagements nationaux et internationaux en matière des droits humains.
Est-ce que, on va revenir à vous parce que je voulais d'ailleurs vous demander, peut-être vous pouvez survoler un peu quand vous dites que les signaux étaient au rouge et puis Madame Margaret qui dit que la situation ou les conditions dans lesquelles vous travaillez, la situation est grave, vous pouvez survoler un peu cette situation qui est aussi grave?
Oui, tout à fait, le tableau est tout à fait sombre. Nous avions dit que, en fait, premièrement, il y a un problème de mauvaise perception des ONG des droits de l'homme et du travail des défenseurs des droits humains par les gouvernements de la République démocratique du Congo, qui continuent malheureusement à percevoir les défenseurs des droits humains comme des ennemis, hein, comme une caisse de résonance à la solde des puissances étrangères et de l'opposition politique. alors que les défenseurs, en fait, ne demandent qu'à coopérer pleinement avec l'État, la République démocratique du Congo. Il y a eu la conséquence de tout cela, et que ce travail qui est en fait mal perçu, déclenche des menaces contre les défenseurs des droits humains. Il s'agit des écoutes téléphoniques, des filatures, des surveillances de bureaux, de menaces, des intimidations, des cas d'assassinat, des cas également d'emprisonnement, des cas de procès inéquitables, etc. Et de plus en plus également des problèmes d'accès à l'existence légale. Ces problèmes également été adressés par les défenseurs des droits humains pour dire que beaucoup d'ONG n'ont pas de personnalité, alors que les dossiers ont été déposés de toute belle lurette auprès de l'État SD congolais.
Voilà. Et quelle est votre lecture, Madame Claudine Mouchobekwa, vous en tant que membre de l'Association des femmes juristes congolaises?
Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord saluer son excellence, monsieur le ministre des droits humains et monsieur Floribert Chebeya. Et surtout saluer l'action des défenseurs de droits de l'homme en RDC. Oh. Je dirais donc avec M. Floribert Chebeya que la situation est grave et que ce n'est pas pour rien que un rapporteur spécial pour la situation des droits des défenseurs de droits de l'homme en RDC a été nommé. Ce n'est pas pour rien qu'il a effectué ce voyage, Madame Sekaga. Et donc la situation est telle qu'elle est, telle qu'elle a été décrite, je ne veux pas répéter, mais je dirais que si nous dépassons les vœux pieux que monsieur le ministre a exprimé, ce n'est pas les paradis. Vous vous rappelez qu'au mois de mars déjà, il y a des défenseurs de droits de l'homme qui ont été arrêtés préventivement, si on peut dire, parce qu'ils étaient arrêtés par rapport à une situation qui n'était pas encore survenue. Donc, ils sont harcelés, il y a un climat de suspicion entre les défenseurs de droits de l'homme et les autorités. Il y a un climat de méfiance, un climat de terreur, et donc il est grand temps que le gouvernement puisse prendre les choses en main et rassurer ces citoyens qui ne font que leur travail et leur devoir de citoyens.
Voilà. Monsieur le ministre, comment vous rassurez les citoyens congolais, justement, pour aller au-delà de ce que Mme Claudine Mouchobekwa qualifie de vœux pieux?
Non, j'ai toujours dit, monsieur le journaliste, que les Congolais et les Congolaises doivent avoir les pieds sur terre. Nous ne sommes pas au paradis, nous ne sommes pas le seul pays qui a pris des engagements internationaux en matière de respect des droits de l'homme. Et je considère et je l'affirme haut et fort que notre pays réalise des progrès immenses. Souvenez-vous que le président de la République, lorsqu'il a prêté serment à l'issue des élections, il a pris un engagement formel, n'est-ce pas, dans la trilogie aux droits de l'homme, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, d'agir pour la construction d'une société démocratique. Et je sais que les défenseurs de l'homme ont un rôle essentiel, et nous en sommes conscients. Et donc, lorsque nous avons des mécanismes de ministère des droits humains, d'autres mécanismes qui travaillent pour améliorer la situation de l'homme, et il faut noter qu'il y a du progrès. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que les ONG, c'est des personnes qui se réclament être les défenseurs des droits de l'homme qui sont les seuls défenseurs. Il y a de nombreuses personnes, de nombreuses associations, tout celui qui participe à la cause de l'homme a un rôle à jouer. Et donc, s'il y a quelques cas isolés, il y en a des cas, nous reconnaissons qu'il y a des situations qui sont condamnables. Mais il ne faut pas généraliser, il faut éviter le péché des généralisations, ça, les grands problèmes. Madame Margaret reconnaît les rôles du gouvernement, c'est nous, gouvernement, qui l'avons invité. C'est vrai, c'est pas pour rien, c'est parce que nous l'avons invité de venir, parce que nous sommes conscients du travail que nous devons faire pour améliorer chaque jour la situation de l'homme.
Non, d'après elle, excusez-moi, monsieur le ministre, vous ne l'avez pas invité, et là, c'est vous avez accepté sa visite, mais sa visite a été décidée au niveau des Nations Unies.
Non, j'aimerais vous dire tout simplement, clairement, selon les mécanismes, n'est-ce pas, qui régente les procédures spéciales, c'est l'État qui invite. Donc, si nous allons dire non, elle ne serait pas venue. Donc, ça démontre quelle est la volonté du gouvernement, quel est, n'est-ce pas, notre attachement aux valeurs des droits de l'homme.
Mais les droits de l'homme, c'est un idéal, c'est un processus. Oui. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons améliorer la situation, non. Oui. Et nous y travaillons chaque jour, qu'il y a des progrès qui sont accomplis, des tas de violations qui sont connues, qui sont signalées, font l'objet, n'est-ce pas, des mesures correctives, des poursuites sont engagées, des violateurs, je dirais, qui commettent des violations massives des droits de l'homme sont condamnés, il y a des procès qui sont en cours. Donc il y a ces situations concrètes qu'il faut relever, qu'il faut reconnaître. Certes, nous savons qu'il y a des problèmes, il y a des défis à relever, mais nous avons mis en place des mécanismes. Il y a d'autres, n'est-ce pas, d'autres actions qui sont à chantier pour améliorer chaque jour la situation. Et donc, il ne faut pas dire que globalement la situation c'est grave, nous savons qu'il y a des problèmes, c'est vrai. Mais nous avons pris l'engagement ferme de contribuer à améliorer. Et nous voulons justement que ceux qui se réclament, effectivement, d'être des défenseurs de l'homme.
Oui.
De conjuguer les efforts avec les gouvernements. Parce que, comme je le dis toujours, il n'y a pas d'un côté les opposants. Parce qu'il y en a effectivement qui se conseillent, qu'on croit qu'ils font l'opposition politique. Non. Non, il n'y a pas d'opposition politique en matière de défense de l'homme. Les valeurs de l'homme sont universelles, elles sont partagées par tous. Le gouvernement, qui a la responsabilité première de protéger tous les droits de l'homme, ne peut pas, en aucun cas, n'est-ce pas, se transformer en violateur, non. Mais si quelque part, il y a des services, des agents, oui, à quelque niveau que ce soit,
oui,
qui s'écartent de règles, il appartient au gouvernement de sévir, et effectivement, sur ce plan-là, nous sévissons de manière énergique.
Voilà, ce sujet, il faut saluer des Maïmaï, voilà, condamnés ce jeudi, qui s'est gagné pour viol massif. Et là, vraiment, c'est un cas à saluer. Mais cependant, quand on écoute les témoignages d'autres défenseurs de droits de l'homme, comme celui de Bukavu au sud Kivu, ville visitée, comme nous l'avons déjà dit, par Margaret Sekagia, Raphaël Wakenge, responsable du réseau des associations de droits de l'homme du sud Kivu, plaide pour la reprise des procès de tous les potentiels criminels contre les défenseurs de droits de l'homme. Il évoque quelques cas de ses collègues défenseurs de droits de l'homme victimes, tels que Pascal Kabongulu, assassiné et dont le procès n'a jamais fait toute la lumière sur sa mort. On écoute Raphaël Wakenge au téléphone de Kelinkote.
La plupart des cas des défenseurs de droits de l'homme qui ont été identifiés, ce sont des cas de flagrants qui ont été commis dans la province du Sud Kivu. Nous avons évoqué le cas de Pascal Kabungulu, de Serge Maeste, de Didas Namujimbo et de Maître Kateka, qui a été récemment assassiné à son domicile. Ce qu'il faudra faire, il faudra, à notre avis, que les procès qui ont commencé puissent reprendre pour permettre à ce que les potentiels fauteurs de troubles à l'endroit des défenseurs des droits de l'homme tirent des leçons de ce procès-là. Il ne peut pas y avoir d'amélioration lorsqu'il n'y a pas de collaboration entre les autorités et les défenseurs des droits de l'homme.
Et à Kananga, autre ville visitée par la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, dans ce chef-lieu du Kasaï occidental, les associations de défense des droits de l'homme disent travailler dans des conditions difficiles et insécurisantes. C'est le cas du réseau Jeunes dans le Monde pour la Paix, une ONG de défense des droits de l'homme. Pour Edel Martin Kabutakapoa, une franche collaboration entre les ONG de défense des droits de l'homme et les autorités civiques et politiques du pays améliorerait leurs conditions de travail. On écoute encore une fois au téléphone de Kelly Côté.
Nous rencontrons des difficultés de toutes sortes. Il n'y a pas longtemps, par exemple, en ce qui concerne ma structure, le coordonnateur dans le territoire de Jimbeleni, précisément à Bakamba, a été torturé sérieusement et je pense que j'ai dû demander porter plainte contre les agents de la police qui, pour garder la population, ils essayent un peu de déranger les activistes qui sont au niveau local. Je pense que l'environnement n'est pas du tout bon, nous vivons comme des chiens et chats. Nous connaissons que l'État est là, l'État existe, il a son mandat, mais nous aussi nous avons notre travail et nous faisons. Il faut qu'il y ait une franche et sincère collaboration entre les activistes des droits de l'homme et les autorités du pays. S'il y a cette franche et sincère collaboration, je pense qu'on pourra réduire la plupart des cas de violation des droits de l'homme.
Alors, chez Béa Floribert, pourquoi d'abord la plupart des procès, notamment celui de Pascal Kabungulu, selon vous, pourquoi on ne clôt pas ces procès, pourquoi on n'a pas toute la lumière sur ça, selon vous?
Ce procès, il est tout d'abord lié au contexte. Au contexte d'occupation de l'Est de la République démocratique du Congo par les mouvements politico-militaires, pour ne pas dire la rébellion armée, du Rassemblement congolais pour la démocratie, et qui continuait à contrôler en fait l'Est de la République démocratique du Congo pendant les années de transition politique. Et c'est à cette période-là que notre collègue, cher collègue Pascal Kabungulu Kibembi, a été sauvagement assassiné fin juillet 2005. Nous avons eu à dénoncer des interférences au sommet de l'État par le Rassemblement congolais pour la démocratie, également par le RCD et par le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui malgré l'insistance des défenseurs des droits humains, l'insistance des ambassadeurs de l'Union européenne, qui sont tenus également à travailler pour la promotion du droit de l'homme, parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a un mécanisme important pour la mise en œuvre de la déclaration sur la protection des défenseurs des droits humains, qui en fait les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits humains, dont ont vu les autorités congolaises à l'époque pour dire qu'il est important qu'il y ait un procès juste et équitable, et malheureusement, cela n'a jamais eu lieu. Toutes les années, les défenseurs des droits humains, à cette période-là, commémorent l'assassinat de notre cher regretté collègue Pascal Kabungulu Kibembi. Il y a une année ou deux années, à Kinshasa, les défenseurs des droits humains se sont rassemblés pour faire un sit-in à la présidence de la République pour émettre un mémorandum adressé au chef de l'État où nous avions justement exprimé des préoccupations pour qu'il puisse avoir un procès juste et équitable concernant l'assassinat de Pascal Kabungulu. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune suite qui a été adressée à ce mémorandum des défenseurs des droits humains.
Alors, Madame Claudine, vous, en tant que membre de l'Association des femmes juristes congolaises, Claudine Mouchobekwa, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces procès qui semblent tâtonner?
Sur ces procès qui semblent tâtonner, comme je viens de le préciser, M. Florian Chebea, c'est que l'impunité règne depuis un certain temps, un bon nombre d'années, hein, au Congo, l'impunité règne en maître. Et donc, il n'est pas normal, par exemple, que des gens soient jugés par des tribunaux qui ne sont pas régulièrement constitués, et donc qu'ils soient jugés sur base des lois qui n'existent presque plus, et donc que les services de sécurité ou des renseignements, que la police, l'armée interviennent dans la procédure. Donc moi, je me dis qu'il est temps quand même que le gouvernement prenne les choses en main, et c'est tout ce qu'on demande. On demande que le gouvernement puisse prendre les choses en main. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas les ennemis de l'État. Ils sont congolais, ils ne peuvent pas être ennemis de leur État. Ils font leur travail, ils font un travail louable. D'ailleurs, c'est eux, si on peut dire, l'œil et les oreilles du gouvernement en matière de droits de l'homme. Quand ils alertent, il faudra bien qu'on puisse prendre cette alerte comme une alerte constructive et pas leur prêter des intentions, pas ces droits de suspicion qui n'ont pas de sens. Moi, je tiens à déplorer aussi les propos du porte-parole du gouvernement qui a dit que Mme Tshisekedi liste les faits qui indiquent que les défenseurs des droits de l'homme sont des ennemis. Moi, je me dis que ce n'est pas normal. On ne peut pas demander à un rapporteur spécial de lister les faits. Et je peux citer notre frère qui a parlé à Bukavu, notre frère qui a parlé à Kananga, et celui qui est sur le plateau. Moi, je pense que c'est les trois voix représentent déjà tout ce que... toutes les listes possibles qu'on peut chercher, quoi.
Ouais, malheureusement, le porte-parole du gouvernement central, Lambert Mende, n'est pas dans cette émission pour vous répondre. Mais il y a Malonga Kubali, il nous écrit depuis Bandunduville, qui demande pourquoi les ONG de droits de l'homme dénoncent souvent les méfaits de notre gouvernement au lieu de chercher à trouver des solutions. Floribert Chedea, pourquoi vous ne proposez pas? Vous ne faites que dénoncer ce qui ne va pas.
Bon, je salue la préoccupation de notre compatriote, mais je pense qu'il n'a pas la réalité du travail quotidien des défenseurs des droits humains. hein, les défenseurs des droits humains en République démocratique du Congo, depuis qu'ils ont commencé à y travailler, ça fait plusieurs années déjà, ont exprimé et continuent à exprimer constamment des prédispositions à collaborer avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, comme nous l'avons dit, qui est le premier responsable de la réalisation ou de mise en œuvre des droits humains dans notre pays et dans d'autres États, en fait, quand il s'agit des États. On ne peut pas concevoir, hein, n'est-ce pas, les droits humains quelque part sur un terrain sans qu'il y ait un État qui soit premier responsable. Malheureusement, comme nous l'avons dit, il existe jusqu'à aujourd'hui des préjugés défavorables. Il existe des mauvaises perceptions. Il y a peut-être des intérêts également politiques qui empêchent justement cette collaboration.
On va revenir justement sur la collaboration, puisqu'on doit passer à la deuxième partie de cette émission pour savoir comment améliorer justement vos conditions de travail ainsi que vos rapports avec les autorités congolaises. Je rappelle juste à ceux qui viennent de se joindre à nous que nous parlons du constat de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme qui déplore l'environnement dans lequel travaillent les défenseurs de droits de l'homme en RDC. Nous recevons le ministre des Droits Humains du gouvernement central, Upio Kakurawa Paul, Florida Chebeya, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix, une ONG de défense des droits de l'homme, et Madame Claudine Moussobekwa, elle est membre de l'association des femmes juristes congolaises, AFEJICO. Deux autres réactions viennent de tomber. Papi Kangol de Bukavu Sud-Kivu affirme que les défenseurs des droits de l'homme sont classés parmi les grands corruptibles de la République. Vous allez y répondre, c'est bien, je vois sourire. Albert de Kindu, voilà, il voudrait connaître concrètement les progrès dont le ministre parle au regard de l'impunité qui prévaut à l'est du pays. Vous allez répondre, Floribert, mais on commence par monsieur le ministre, peut-être pour répondre à Albert Kindu. J'espère que c'est ça son nom, Kindu. Par rapport à l'impunité.
Oui, je crois que non, la question relative à l'impunité est une question qui préoccupe le gouvernement. Comme vous le savez, les collègues de la justice ne cessent chaque jour de nous démontrer combien le gouvernement est engagé pour lutter contre l'impunité, et notamment lorsqu'il s'agit de punir les auteurs des violations massives et flagrantes des droits de l'homme. Donc sur ce point-là, nous sommes engagés à aller de l'avant et je voudrais rassurer notre compatriote qui a parlé de Bukavu également sur les procédures qui doivent être, n'est-ce pas, poursuivies quant au procès consécutif, n'est-ce pas, aux défenseurs des droits de l'homme qui ont perdu leur vie dans l'événement de Bukavu.
On va poursuivre cette émission. Comment améliorer les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme ainsi que leur rapport avec les autorités congolaises? On en parle tout de suite. Mais puisque vous attendez le rappel de nos contacts, les voici.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Comment améliorer les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme ainsi que leur rapport avec les autorités congolaises? La collaboration entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités a été évoquée par des défenseurs des droits de l'homme. Vous avez suivi déjà deux, celui de Bukavu et celui de Kananga. Floribert Chebeya l'a évoqué aussi. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, qui a déploré l'environnement dans lequel travaillent les défenseurs des droits de l'homme à RDC, est revenue sur la méfiance qu'il faudrait bannir entre le gouvernement d'un côté et les défenseurs des droits de l'homme de l'autre. On écoute au micro de Radio Okapi. Ses propos sont traduits par son interprète.
Le principal problème est un problème de méfiance entre les autorités et les défenseurs des droits de l'homme. Et ce sont des problèmes que nous avons abordés auprès des autorités. Pour qu'il puisse y avoir un véritable dialogue qui s'établisse entre les défenseurs et les autorités. Et pour que les autorités voient les défenseurs des droits de l'homme comme faisant partie intégrante, un élément essentiel du processus de démocratisation. Et j'ai beaucoup insisté auprès des autorités sur le fait que la société civile est l'un des principaux acteurs du processus de démocratisation. civilisation. Il appartient maintenant à la société civile de jouer son rôle véritable dans ce contexte. Après mon rapport, je verrai si véritablement les autorités sont décidées à faire de la société civile un acteur majeur de du processus de démocratie. Il faut absolument battre le fer quand il est chaud. Il faut continuer à insister, il faut continuer à être actif.
In pressing and demanding.
Voilà, il faut continuer à rester actif. Claudine Moussoubekoa, vous faites partie justement de la société civile. Qu'est-ce que vous jouez comme rôle justement? Parce que d'après Madame Margaret Sekaga, la société civile, vous êtes un des piliers justement du processus de démocratisation.
Oui, la société civile, c'était connu depuis 1990 et là joue un grand rôle dans le processus de démocratisation. Et aujourd'hui encore, je pense que si on n'avait pas cette société civile dynamique, comme celui qui existe actuellement, je pense qu'on n'en serait même pas là où on est, même si nous ne sommes pas au paradis.
Ouais, il y a beaucoup à dire aussi sur la société civile.
Oui, c'est que je voulais dire, il nous arrive dans la société civile de faire comme un examen de conscience et de voir que oui, il y a des associations, par exemple, qui ne font rien ou qui se rendent, je ne veux pas dire coupable parce que je ne les ai pas jugés, de certains mots que la société dénonce. Par exemple, le monsieur qui a parlé de corruption, je ne peux pas alléguer du fait que je n'ai pas connaissance, mais on peut dire quand même que l'obscurité dans la gestion de certaines ONG, leur allégeance parfois à leurs bailleurs de fonds, et la non-visibilité, leur non-visibilité sur la place publique, fait que la population aussi se dit, mais peut-être ces gens ont fondé ces associations, ils les ont créées pour nous.
C'est un peu comme une sorte de business, quoi.
Oui, voilà, comme un business, et donc, nous sommes en train de faire des efforts pour ça. On a vu qu'il y a eu les états généraux, il y a des réunions, par-ci, par-là, et donc on est en train de remédier à tout ça.
Hein. Oui. Mais alors, selon vous, que faut-il faire pour que le rapport entre les défenseurs des droits de l'homme et les autorités congolaises s'améliore? Qu'est-ce qu'il faut?
À mon avis, je pense qu'il faut d'abord qu'on se dise que les Congos, c'est notre pays, et donc nous devons tous travailler pour le sortir du gouffre dans lequel il est. Un gouffre d'une situation que les ministres porte-parole du gouvernement a qualifié de post-conflit, c'est une situation à problème, évidemment. Je pense que l'État a l'obligation d'organiser les rapports entre lui et les particuliers qui dépendent aussi de l'État. Donc, il appartient à l'État d'initier un processus de dialogue, d'initier un processus de remise en confiance avec les défenseurs des droits de l'homme, parce que c'est des sujets qui nous préoccupent actuellement.
Oui.
Et donc, de ne pas penser qu'il y a toujours quelque chose qu'on cache en alertant sur telle ou telle autre situation. Je dis bien, l'État a l'obligation d'organiser ses rapports avec ses citoyens.
Vous voulez dire que l'État ne fait pas assez ce sujet?
L'État ne fait pas assez, mais parce qu'en fait, il n'y a même pas de loi, il n'y a aucun dispositif de protection des défenseurs des droits de l'homme. Il y a, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des rois, je ne sais pas si au ministère des droits humains, ils ont approché les défenseurs et demandé ce qu'ils veulent. Je ne sais pas, je ne peux pas alléguer des choses que je ne connais pas, mais je me rends compte sur terrain et quotidiennement que l'État ne fait pas très grand-chose justement à cause de ce climat de méfiance et de suspicion qui anime les rapports entre les deux, donc entre les défenseurs des droits de l'homme et le gouvernement, principalement. Je ne peux pas parler de l'État, mais le gouvernement. Et donc, si ils peuvent aplanir leur divergence un peu et évoluer dans un climat de confiance mutuelle, un climat de dialogue, je pense que les suspicions vont tomber.
Voilà.
Et ça, c'est nous le souhaitons, nous aimerions bien que ça se passe de cette manière-là. Nous ne sommes pas au paradis, mais nous aspirons à être au paradis un jour. Le pays est grand, il est riche, les gens sont très entreprenants, les défenseurs des droits de l'homme sont là, ils font leur travail, que le gouvernement fasse le sien aussi, celui de protéger les citoyens et de protéger principalement les Français de droits de l'homme qui peut-être ont connaissance de certains cas dont le gouvernement que le gouvernement ne connaît pas peut-être. Le pays est très grand et il n'y a pas encore une situation de sécurité sur toute l'étendue du pays,
oui.
Mais on sait quand même qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui sont même là où la sécurité est vraiment au sommet. Oui, voilà. Donc, je pense qu'avec un climat de dialogue, un climat de concertation permanente, on peut arriver à quelque chose de bien.
Oui, monsieur le ministre Oupio Kakoura Wapol, ministre des Droits humains, gouvernement central, l'État ou le gouvernement ne fait pas assez pour initier le dialogue. Qu'est-ce que vous répondez?
Oui, non, je voudrais simplement dire que s'il y a le dialogue, eh bien c'est le gouvernement qui le prône. Et peut-être que pas mal de défenseurs des droits de l'homme ou surtout les associations qui pour la plupart d'ailleurs ignorent même jusqu'à l'existence du ministère des droits humains, c'est cela qui ne facilite pas le travail.
Pourquoi ils ignorent?
J'ai fait le constat qu'il y en a qui choisissent d'ignorer. Et c'est très grave, parce que je dis toujours que le défenseur des droits de l'homme, c'est celui qui doit d'abord être conscient qu'il est soumis aux lois et règlements de la République, d'une part, et qu'il sait, d'autre part, que le gouvernement, c'est le gouvernement ou l'État, qui a la responsabilité première de protéger tous les droits de l'homme. Et la vision actuelle des droits de l'homme est fondée justement sur le dialogue et le dialogue constructif. Et donc, sans dialogue, sans l'espace de participation de la société civile, eh bien, la protection de la protection des droits de l'homme n'est pas assurée. Donc, ça, c'est le mot clé. Et à ce titre que nous organisons des réunions régulières, n'est-ce pas, aussi bien avec les organisations internationales qu'avec la société civile. Et nous avons convenu de pouvoir, n'est-ce pas, rendre plus effectif, plus régulière, je veux dire, nos réunions dans le cadre soit de l'entité de liaison qui est un mécanisme de coordination de nos efforts. Et il y a également des mécanismes qui fonctionnent, n'est-ce pas, en province. Et c'est là que ce cadre permet les échanges d'informations, ça permet également d'évaluer la situation des violations et de prendre des mesures correctives. Donc le dialogue est une exigence en matière, n'est-ce pas, de protection des droits de l'homme aujourd'hui. Mais je considère, je suis d'accord, qu'effectivement, il y a une prise de confiance. Je le dis qu'il y a...
Et comment la rétablir, justement? Parce que moi, je m'avais posé une question
pour
la
nuit. Pour rétablir, c'est d'abord, d'une part, d'assurer, comme je le dis, n'est-ce pas, une participation régulière de tous les acteurs des droits de l'homme, tous les défenseurs, dans les mécanismes de coordination qui existent. Le premier mécanisme gouvernemental, c'est bien sûr le cadre qu'offre le ministère des droits humains, qui est ouvert à tout le monde. Je signale qu'il y a ceux qui n'ont, je l'ai dit, qui n'ont aucun statut légal, et j'ai toujours dit, les défenseurs qui sont organisés dans les associations doivent régulariser leur statut, c'est une exigence légale. Deuxième chose, nous avons des réunions périodiques, n'est-ce pas, de concertation auxquelles peut-être toutes les associations ne peuvent pas venir, mais leur plateforme peut venir. Et je suis heureux que M. Floribert Chebeya, qui est devant vous, a pu participer, n'est-ce pas, à plusieurs réunions avec nous. Mm-hmm. Et ces réunions nous permettent, n'est-ce pas, de passer en revue les violations dont ces victimes sont victimes, mm-hmm, les défenseurs, et nous prenons ensemble des mesures collectives.
Voilà.
Mais j'aimerais surtout dire encore une fois, ce qui est le plus important aujourd'hui.
Oui, c'est de conclure là.
Ah oui, c'est que nous sommes engagés, n'est-ce pas, à mettre en place aussi bien la Commission nationale des droits de l'homme, qui est un mécanisme qui permet, n'est-ce pas, aux défenseurs de faire entendre leur voix, mais surtout, nous employons à faire en sorte qu'une législation nationale qui puisse traduire, n'est-ce pas, dans notre droit interne, la déclaration des Nations Unies sur les droits des défenseurs des droits humains. Donc, ce sont des mécanismes qui permettront d'assurer de manière plus accrue la protection des défenseurs de l'homme, dont je signale que l'importance de leur travail est reconnue. Et les défenseurs ne se limitent pas seulement aux associations qui crient chaque jour. Il y a beaucoup de personnes qui sont des fonctionnaires, des avocats, des juges, qui font le travail des défenseurs de l'homme, et ceux-là bénéficient de la protection de l'État
chaque jour dans leur travail.
Oui, mais c'est encore dénoncé là, parce qu'il y a encore des morts, ça et là. Il y a Adonis Ouassoki de Baraka au Sud Kivu, pense que le gouvernement congolais doit mettre en place une loi protégeant les défenseurs des droits humains, sinon ces derniers seront toujours exposés. C'est un peu pour rejoindre à ce que vous venez de dire, monsieur le ministre Pochokouwa. On va revenir à vous, mais d'abord, Floribert Chebeya, toujours sur les rapports hein, qui devraient s'améliorer, parce que j'ai suivi encore quelques extraits de la conférence de madame la rapporteuse spéciale des Nations Unies qui disait que au niveau de Bukavu, elle a rencontré les membres de l'Assemblée provinciale, elle a même dit qu'il y a des défenseurs des droits de l'homme qui ont échappé à la mort grâce au dialogue avec les autorités. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas justement à rétablir la confiance entre vous et le gouvernement?
Bon, nous travaillons dans les domaines des droits humains, ça fait plusieurs années aujourd'hui.
Oui, ça fait des années.
Nous avons vu, n'est-ce pas, plusieurs gouvernements, plusieurs régimes politiques. Je pense que le même problème persiste. Comme nous l'avons dit, les défenseurs des droits humains, que ce soit au niveau des associations ou en dehors des associations, reconnaissent les rôles moteurs joués par l'État congolais, premier responsable de réalisation des droits humains. Et par conséquent, les défenseurs des droits humains ont exprimé à plusieurs reprises des prédispositions à collaborer. En 1998, nous sommes même allés jusque à demander un partenariat écrit avec les gouvernements de la République démocratique du Congo.
Est-ce que vous avez fait de même au gouvernement de Oupio Kakoura, dont auquel il appartient? Est-ce que vous avez fait cette demande?
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait, parce que.
Est-ce qu'on vous a répondu?
Bon, il n'y a pas de réponse formelle. Nous avons rencontré le ministre des Droits humains au mois de mars, après notre situation de privation arbitraire de liberté de détention par le service de sécurité de la République démocratique du Congo, tout simplement parce que nous avons fait notre travail de défenseur des droits humains, préoccupés par le menace et le risque qui pesait sur la jeune démocratie RD congolaise. Et à cette rencontre, nous avons justement demandé au ministre, notamment au ministère des droits humains, qui est un mécanisme important au niveau national, qui puisse avoir un contenu réel, et que le ministère des droits humains puisse être les conseillers ou l'agent technique chargé justement de la mise en œuvre concrète de la politique gouvernementale en matière de droits humains. Et à ce niveau-là, il y a des efforts que nous attendons. Alors, le ministère des droits humains doit naturellement, en collaboration avec les ONG et d'autres défenseurs des droits humains, avoir un plan d'action. Alors, est-ce que les droits humains sont décrétés priorité des priorités en République démocratique du Congo? Parce que plusieurs années, nous avons vu un ministère des droits humains presque sans budget. Alors, sans budget, comment on peut mettre en œuvre, n'est-ce pas, les politiques, n'est-ce pas, des droits humains? C'est un problème réel qui se pose. Alors, en ce qui nous concerne, chaque fois que nous sommes saisis des violations des droits humains, nous ne manquons pas de nous adresser aux autorités congolaises, à commencer par le ministre des droits humains. Mais nous recevons rarement, n'est-ce pas, des réponses du gouvernement de la République démocratique du Congo. À ce stade aujourd'hui, s'il m'est donné d'évaluer le degré de collaboration avec les gouvernements de la République démocratique du Congo, en tout cas le degré de collaboration est presque nul.
Le degré est presque nul. Madame Claudine Moussobekwa, vous êtes de cet avis?
Oui, je suis de cet avis parce que avoir la situation sur terrain, même si ce n'est pas de la société civile, on verrait bien qu'il n'y a pas de collaboration.
Excusez-moi madame, j'ai oublié de vous dire qu'il ne me reste que 2 minutes pour terminer cette émission. Donc je vais finalement vous laisser conclure en quelques 20 secondes un mot pour clore cette émission. C'est notamment pour améliorer justement le dialogue entre le gouvernement et les ONG. Un petit conseil peut-être en quelques 20 secondes.
Oui, j'aimerais juste rappeler au gouvernement les engagements qu'ils ont pris, un gouvernement élu, comme on les dit à chaque fois, et donc ils ont pris des engagements sur un programme électoral dans lequel on avait promis, par exemple, qu'il n'y aurait plus de violation des droits de l'homme et que tout le monde serait protégé. On aimerait bien que ça soit réalité et que ça puisse rentrer peut-être dans les 5 chantiers du président de la République, qui sait. Donc, que le gouvernement se donne et que cette ce climat de méfiance et de suspicion disparaisse. Et je pense qu'on pourra avoir, une lueur d'espoir en matière de protection des droits des hommes.
Merci beaucoup. Alors, M. Opokakura, en 30 secondes ou en 20 secondes, voilà, comment faire des droits humains une priorité, des priorités en RDC, hein? C'était la préoccupation de CBR.
Oui, les droits humains sont effectivement une priorité parce qu'il n'y a aucun secteur qui n'échappe, n'est-ce pas, aux préoccupations des droits de l'homme. Et à ce titre, je n'aimerais encore pas rassurer les défenseurs des droits de l'homme que le gouvernement continuera d'agir dans le cadre de ses obligations pour non seulement protéger les défenseurs des droits de l'homme, mais faire en sorte que la promotion des droits de l'homme soit effectivement une réalité.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre Opokakura. Merci à Floribert Chebea et Claudine Moussobekwa. C'est la fin donc de cette émission. Jédoré Nyangasa a été la mise en onde, réalisation de Guy Maté, Kéline Couté, Samuel Kachak, coordination de Martin Sebujangwe et devant ce micro, Jean-Claude Tumba Kamanga. Merci de nous avoir suivis.